Bonjour à tous. Alors qu'une commission d'enquête parlementaire vient tout juste de s'intéresser à l'affaire du lait Lactalis contaminé à la salmonelle, nous allons revenir sur une autre contamination à la salmonelle, passée elle sous les radars médiatiques et qui a probablement fait une dizaine de morts. C'est ce que nous a révélé Laetitia Serrel en avril dernier. Et puis nous recevrons Alexandre Kaufmann, l'auteur d'une enquête sur le trafic de drogue à Paris, une immersion au sein d'une unité spéciale de la brigade des stupéfiants, pour mieux comprendre cette économie souterraine, le nouveau visage des trafiquants et des consommateurs de drogue.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
À la une ce matin, une bactérie dans les biberons. Le groupe Lactalis retire en urgence des millions de boîtes de lait en poudre pour nourrissons. 25 bébés sont tombés malades. Les autorités sanitaires n'ont pas voulu prendre de risques. Une ascension politique par
voilà,
la face
droite. Voilà, c'était le 10 décembre 2017, le journal de Marc Fauvel sur France Inter. Le début de ce qu'on a appelé l'affaire Lactalis. 38 bébés contaminés par une bactérie, la salmonelle, qui se trouvait dans le lait en poudre du géant de l'agroalimentaire. Un scandale sanitaire sur lequel enquête désormais la justice. C'est vous, Laetitia Serrel, qui avez suivi cette affaire pour Secret d'Info. Et ce que vous avez découvert, c'est que bien avant ce scandale Lactalis, il y a eu une autre contamination à la salmonelle, beaucoup plus grave.
Oui, avec une dizaine de morts et près de 80 malades qui avaient mangé du fromage au lait cru, et notamment du Morbier et du Mont-d'Or.
Mais c'était quand ça ?
Alors tout a commencé en janvier 2016, quand l'Institut de veille sanitaire donne l'alerte. Il constate un nombre anormal de contaminations à la salmonelle dans toute la France, et en particulier en Franche-Comté. Alors le 8 mars 2016, une note interne fait un bilan temporaire. Elle parle alors de 7 morts et elle fait un lien plus que probable avec la consommation de fromage au lait cru. Écoutez l'extrait de cette note que nous nous sommes procurés.
70 malades ont été identifiés depuis novembre 2015. 7 sont décédés. Une association entre l'apparition de la salmonellose et la consommation de Morbier et de Mont-d'Or a été mise en évidence.
Oui, donc la mise en évidence par l'Institut de veille sanitaire d'un lien entre les malades et le fromage au lait cru contaminé. Et combien de temps ça a duré, cette contamination ?
Alors, 16 semaines hein, entre l'apparition des premiers cas fin 2015 et les derniers en avril 2016. Au total, ça fait à peu près 80 malades et une dizaine de morts. Parce qu'il s'agit, je le précise, d'un type de salmonelle particulièrement agressif, la Salmonella Dublin, comme nous le confirme Nathalie Jourdan d'Assis Silva de l'Institut de veille sanitaire, rebaptisé aujourd'hui Santé publique France.
Durant l'hiver 2015, nous avons eu une épidémie nationale à Salmonelle Dublin, plus grave que les autres, avec un risque plus important de décéder. Nous avons eu environ 80 cas, avec une dizaine de décès dans cette épidémie.
Oui, donc on l'a bien compris, hein, il s'agit là d'une contamination à la salmonelle vraiment sérieuse.
Oui, et c'est même la plus grave hein, de ces 10 dernières années. Les victimes, je le précise, étaient principalement des personnes âgées déjà fragilisées par d'autres maladies.
Et donc Laetitia, vous avez voulu comprendre ce qui s'est passé, et pour ça, eh bien, vous avez remonté le fil de cette épidémie.
Oui, mais ça n'a pas été simple, hein, et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait une soixantaine de producteurs de fromage potentiellement concernés, et puis surtout parce qu'à partir du moment où les services sanitaires ont fait le lien avec les gens malades, eh bien c'était trop tard pour retirer les fromages contaminés, parce qu'ils avaient déjà été mangés.
Et pourquoi c'était trop tard pour réagir ?
Eh bien, tout simplement parce qu'un fromage au lait cru, ça a une durée de vie très courte. Hein. Donc, quand les analyses ont confirmé la présence de salmonelle, eh bien, les fromages n'étaient plus sur les étalages, comme l'explique la porte-parole de la Direction Générale de l'Alimentation, Fanny Mollin.
Quand les résultats ont été disponibles, l'ensemble des dates limites de consommation des fromages suspectés étaient dépassées. Il n'y avait plus possibilité donc de faire ni retrait ni rappel de fromage, et ça explique probablement l'absence de médiatisation, alors même qu'aucune information n'était cachée et que dès le début, des travaux ont été engagés avec les professionnels concernés.
Mais trop tard donc pour retirer les fromages contaminés. Et qu'est-ce qu'on en dit du côté des associations de consommateurs ?
Alors c'est quand même la stupéfaction. Hein. Le président de l'association de consommateurs, la CLCV, Jean-Yves Manot, est très étonné de ne pas avoir été informé à l'époque.
Nous ne comprenons pas qu'une alerte générale n'ait pas été donnée par les responsables de l'État en matière de santé publique, au moins sur la protection à prendre vis-à-vis d'un certain type de population fragilisée potentiellement par la consommation de fromage au lait cru. c'est extrêmement grave. Les professionnels ont pris leurs responsabilités. Néanmoins, il est indispensable que l'État fasse des campagnes d'information de façon régulière pour protéger ces personnes en fragilité potentielle. Ce qui s'est passé une fois pourra se renouveler et ce n'est pas acceptable.
France Inter, secret d'info.
Alors on a vu comment du fromage au lait cru contaminé par de la salmonelle avait probablement provoqué la mort d'une dizaine de personnes, sans que ça fasse la une des journaux à l'époque. Voyons maintenant, Laetitia Chérel, ce que cette affaire a changé finalement.
Alors ça a changé beaucoup de choses pour les producteurs de fromage de Franche-Comté. Ils ont tellement à cœur de préserver la qualité de leur fromage au lait cru qu'ils ont augmenté le nombre de leurs propres contrôles. Sur le lait par exemple, et c'est par lui qu'est venue la contamination dans cette affaire, et aussi sur les fromages.
Et ça, vous avez pu le vérifier en allant sur place.
Oui, je suis allée dans la fromagerie du village de Doux. C'est un bâtiment tout en pierre qui fabrique 5000 monts d'or par jour. Eh bien, depuis cette fameuse contamination, les analyses sur le lait ont été multipliées par 10, comme l'explique le maître fromager Sébastien Delavenne.
Chaque lait de ferme sera prélevé pendant la nuit. Il part au laboratoire pour être analysé en salmonelle. Les échantillons se présentent comme ça, donc on a le numéro du producteur avec un code barre. Donc voilà, il remplit le petit flacon et ça part à l'analyse le lendemain.
Voilà donc des échantillons de lait qui partent à l'analyse chaque jour. Ça c'est le contrôle sur la matière première, le lait. Mais il y a aussi les contrôles sur le fromage lui-même.
Oui, et ces contrôles, eh bien, ils ont été multipliés par 5 suite à des consignes très strictes des syndicats du Mont d'Or et du Morbier. Alors tout ça, bien sûr, ça a un coût, comme en témoigne le président du syndicat du Mont d'Or, Éric Février.
Pour 30 producteurs, le coût est estimé aujourd'hui à un petit peu plus de 100 000 euros. Il y a à peu près 500 producteurs. C'est quelque chose entre 1,5 million et 1,8 million d'euros d'investissement en analyse.
Ah oui, quand même, plus d'1,5 million d'euros dépensés par les producteurs de fromage pour renforcer tous ces contrôles. Et ça a porté ses fruits ?
Eh ben, apparemment oui, puisque selon les autorités sanitaires, depuis 2016, il n'y a eu aucune nouvelle contamination par du fromage au lait cru.
Voilà donc pour les conséquences de cette affaire sur les producteurs de fromage, mais il y a aussi un impact pour les élevages de vaches laitières.
Oui, avec une mesure radicale prise dans les élevages. Désormais, les vaches dont le lait est contaminé à la salmonelle sont systématiquement abattues, comme l'explique Éric Février, qu'on a déjà entendu. Il est également éleveur et producteur de lait.
Si un animal est détecté positif, on a l'obligation de le faire abattre, parce que ça ne se soigne pas. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui a été demandé dans la filière lait cru, Mont d'Or et Morbier, c'est l'abattage des animaux. C'est nous qui nous l'imposons. Il n'y a pas de réglementation par rapport à ça.
C'est nous qui nous l'imposons, dit cet éleveur, dès que la salmonelle est détectée chez une vache, elle est abattue. Mais comment il le sait, l'éleveur, que sa vache est bien contaminée ?
En fait, la plupart du temps, c'est le fabricant de fromage qui, après analyse du lait, prévient l'éleveur. Parce que ça peut paraître surprenant, mais il n'y a pas de dépistage obligatoire de la salmonelle dans les élevages de bœuf ni dans les élevages de porc. Le seul dépistage obligatoire concerne aujourd'hui les élevages de poules pondeuses.
Mais pourquoi ?
Eh bien parce que les contaminations à la salmonelle par les œufs sont les plus fréquentes, selon Gilles Salva, le directeur délégué de l'Agence pour la sécurité sanitaire.
On a une réglementation spécifique pour lutter contre les salmonelles chez les volailles parce qu'on a découvert dans les années 80 que certaines salmonelles pouvaient se transmettre à l'œuf et que, comme les œufs sont souvent consommés crus, quand on fait une mayonnaise, quand on fait une mousse au chocolat, il y avait un risque particulier pour le consommateur. Et là, on a une réglementation européenne qui exige que les animaux contaminés soient abattus et on a pu montrer que l'application de cette réglementation avait permis de diminuer de 40 à 50% les toxi-infections. Donc on a vu que cette prévention était efficace.
Ah oui, donc le dépistage systématique dans les élevages de poules pondeuses a fait baisser de moitié les contaminations à la salmonelle par les œufs. Mais alors, si ça marche pour les poules, pourquoi on ne fait pas la même chose pour les bœufs et les porcs ?
Eh bien parce que selon tous les spécialistes que j'ai consultés, les mécanismes de transmission de la salmonelle ne sont pas les mêmes chez les poules que chez les bœufs et chez les porcs. Et selon l'Agence de sécurité sanitaire, eh bien on n'a pas encore trouvé la parade à ce problème.
On n'a pas de solution scientifique encore parfaitement établie pour dire comment il faudrait faire pour se débarrasser des salmonelles chez les porcs et les bovins. Donc actuellement, il n'y a pas de réglementation, un peu à cause de ça, parce que les scientifiques sont un petit peu désemparés sur un panel de solutions qui permettrait d'éradiquer complètement les salmonelles.
Des scientifiques un peu désemparés pour trouver la solution, et quelles sont les perspectives alors?
C'est justement un sujet sur lequel la Direction générale de l'alimentation leur a demandé de travailler depuis plusieurs mois. Parce qu'il y a un chiffre qui est peu connu mais qui interpelle. 3% des élevages de bovins sont contaminés par la salmonelle, selon une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire que nous avons pu consulter.
3% des élevages bovins contaminés à la salmonelle, alors dit comme ça, ça semble effectivement pas négligeable, mais en réalité, quel risque ça représente pour les consommateurs?
Alors, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de risque, hein, puisque la salmonelle est détruite quand on cuit les aliments dans lesquels elle se trouve, à 63 degrés précisément, hein, et d'ailleurs que ce soit du lait ou de la viande. Il faut savoir que de la salmonelle, il y en a régulièrement dans nos assiettes, et sans aucune conséquence. En revanche, le problème se pose pour les steaks hachés qui sont crus ou saignants, comme le précise encore Gilles Salva de l'Agence pour la sécurité sanitaire.
Les risques sont particuliers pour la filière bovine, notamment lorsque ces viandes peuvent servir à fabriquer des beefsteaks hachés, qui posent un problème particulier puisque si vous consommez ce steak haché saignant, vous avez un vrai risque d'avoir des salmonelles qui ont survécu à l'intérieur de ce steak.
Il y a un exemple, en 2010 à Poitiers, plus de 500 élèves ont été malades après avoir mangé des steaks hachés surgelés à la cantine de leur collège et une trentaine d'entre eux a été hospitalisée.
Bon, ça c'est pour le bœuf, mais la viande de porc, elle aussi, elle est potentiellement concernée.
Oui, selon plusieurs études scientifiques, on trouve des traces de salmonelle dans un élevage de porc sur deux. Alors là encore, le risque est assez limité, puisqu'en général, la viande de porc, on la fait cuire et plutôt même bien cuire, sauf que pour certaines charcuteries bien spécifiques, il peut y avoir un problème, selon Gilles Salva de l'Agence de sécurité sanitaire.
Le risque particulier pour les porcs est lié à certains types de charcuteries sèches pour lesquelles le séchage du produit va être insuffisant. C'est le cas en particulier pour certains saucissons pas assez secs, on va dire, et qui devraient l'être. Et puis pour des saucissons de petit format, type les saucissons pour apéritif, où on peut avoir des conditions de séchage pas assez longues pour permettre la disparition des salmonelles.
Oui, donc vigilance sur certaines charcuteries, dit l'Agence de sécurité sanitaire. Bon, mais si on veut vraiment être précis, Laetitia, on a parlé des poules, des vaches, des porcs. Ces contaminations à la salmonelle, elles ont plutôt augmenté ou baissé?
Alors, toutes filières confondues, elles ont plutôt globalement baissé depuis une vingtaine d'années. Cela dit, la salmonelle reste aujourd'hui la principale cause d'intoxication alimentaire avec la listeria.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors, on a vu comment les contrôles à la salmonelle ont été renforcés tout au long de la chaîne alimentaire. On a vu comment il était encore très difficile, techniquement, de la détecter dans les élevages. Arrêtons-nous à présent, Laetitia Chérel, sur un maillon essentiel dans cette chaîne, c'est l'abattage des animaux.
Oui, parce que c'est à l'abattage que tout se joue. C'est là que le risque de contamination à la salmonelle est le plus élevé, et voilà pourquoi. Quand un animal est porteur de la salmonelle, la bactérie ne se trouve pas dans sa chair, mais dans son estomac et dans ses intestins. Un peu comme si elle était enfermée dans une poche. Toute la difficulté, c'est de faire en sorte que cette poche ne soit pas percée au moment où la carcasse est découpée. Et c'est ce que nous explique Fabienne Niger de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de la viande.
Quand on va retirer les estomacs et les intestins de la carcasse, il faut qu'on soit très vigilant à ne pas ouvrir les estomacs et à ne pas contaminer la carcasse. Par exemple, on va orienter le couteau d'une certaine façon vers l'extérieur pour ne surtout pas que le couteau aille perforer les estomacs. On va les accompagner en douceur pour découper les adhérences. Donc toute une série de bonnes gestuelles sans rupture de la paroi digestive.
Oui, donc une série de bons gestes pour éviter la contamination de la viande, on l'a bien compris, mais il n'y a jamais d'incident?
Ah bah si, ça arrive, bien sûr. D'ailleurs, dans le jargon des abattoirs, on appelle ça une souillure. Et quand ça arrive, tout est très encadré, assure Fabienne Niger.
On va identifier la carcasse, on va la mettre de côté et on va retirer de la consommation humaine toutes les parties contaminées. On les enlève, sous inspection, sous supervision des services vétérinaires.
Est-ce qu'on est sûr que tous les agents déclarent un accident d'éviscération?
Oui, parce qu'on est responsable des produits qu'on met sur le marché. On ne peut pas se permettre un accident, puisque nous, la qualité de nos produits, c'est nos clients.
on ne peut pas se permettre un accident. Oui, on imagine bien que c'est pas dans l'intérêt des industriels de mettre de la viande souillée sur le marché, mais ça n'arrive jamais, ça.
Alors j'ai posé la question à un journaliste indépendant, Geoffrey Le Guilcher. Il a travaillé un mois et demi dans l'un des plus gros abattoirs de France, mais sans dire qu'il était journaliste. Il en a fait un livre, Steak Machine. Il a donc partagé le quotidien des ouvriers sur la chaîne d'abattage. Et des incidents, lui, il en a vu. Écoutez.
Il y a les consignes et il y a ce qui se passe en réalité. La consigne qu'il faut appliquer normalement, c'est d'appeler un vétérinaire. Un casque vert, nous on est des casques blancs. Il regarde et s'il estime que effectivement c'est une souillure ou un problème ou un abcès, la carcasse sort de la chaîne et là il y a un autre ouvrier qui avec le vétérinaire va décider de ce qu'on découpe et de ce qu'on jette à la poubelle. Souvent quand l'ouvrier veut pas perdre de temps et que c'est une toute petite souillure, hop, il découpe un bout de viande et il jette cette partie en question et il dit rien. Il n'applique pas ce qu'on appelle la consigne et en fait bah voilà, il y a beaucoup de zones grises à l'intérieur de ces règles qui font que, dans la réalité, c'est très très différent de ce qui est marqué sur le papier.
Beaucoup de zones grises, selon ce journaliste, la procédure sanitaire ne serait pas systématiquement suivie, notamment pour ne pas perdre de temps, parce que sur la chaîne de production, il y a des cadences très élevées.
Et oui, dans l'abattoir où Geoffrey Le Guilcher a travaillé, on tue en moyenne un bœuf par minute. Physiquement, c'est très éprouvant pour les ouvriers. Du coup, certains ne restent pas très longtemps en poste, et ça a forcément des conséquences sur la qualité de leur travail, comme en témoigne encore Geoffrey Le Guilcher.
40% de la chaîne, ce sont des intérimaires, puisque les gens ne restent pas dans ces postes. Qui dit intérimaire dit souvent gens moins bien formés que les ouvriers qui sont sur la chaîne. Et donc du coup, comme on est moins bien formé, on sait pas très bien aiguiser un couteau. Et moi, à la fin de la journée, souvent, l'un de mes deux couteaux coupe plus. J'utilise le même couteau, au lieu de changer entre les deux carcasses. Il y a un savoir-faire, il y a des règles. Les gens essayent vraiment de les faire respecter, les chefs, la hiérarchie, les vétérinaires. Mais la vérité, c'est que à cause de la cadence, à cause du manque de formation, on lutte et on essaye de tenir la cadence comme on peut.
Alors on a bien compris que c'était pas toujours évident pour les ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs. Et pour ceux qui contrôlent à l'intérieur aussi, c'est pas toujours simple.
Oui, eux, ce sont les services vétérinaires de l'État, obligatoirement présents dans tous les abattoirs. Ils sont chargés de contrôler les carcasses et de mettre de côté la viande contaminée, ce qui représente évidemment une perte pour l'abattoir. Et du coup, parfois, ça peut mal se passer. Écoutez le témoignage de deux anciens des services vétérinaires, Philippe Béranger et Didier Herbert. Ils sont aujourd'hui représentants syndicaux au SNUITAM FSU et ils ont tous les deux répondu à mes questions.
Ça peut être plusieurs kilos, voire une demi-carcasse qui peut être carrément souillée, donc qu'on va saisir. S'il y a beaucoup de souillures, on est sûr de retrouver avec nous à nos côtés l'industriel qui sera là. De par sa présence, c'est déjà une pression.
Est-ce qu'un industriel a déjà refusé que vous mettiez de côté une carcasse souillée ? Est-ce que ça arrive souvent ?
Disons que le ton monte, ça arrivait, que le ton monte et qu'on en arrive aux insultes.
Des pressions, des insultes parfois, et du côté des abattoirs, qu'est-ce qu'on dit de tout ça ?
Écoutez, difficile de le savoir, j'en ai contacté plus de 10, principalement en Bretagne, et aucun n'a accepté ni de me recevoir, ni même de répondre à mes questions.
Bon, alors on a bien compris qu'il peut y avoir des dysfonctionnements plus ou moins graves au sein des abattoirs. Mais parfois, Laetitia, ça peut aller beaucoup plus loin. Il peut y avoir des soupçons de fraude sur les contrôles à la salmonelle.
Ah oui, c'est ce qui se serait passé chez Castelviande, un abattoir à Châteaubriant, en Loire-Atlantique. Les carcasses contaminées auraient été réintroduites dans la chaîne d'abattage. C'est en tout cas ce qu'affirme Pierre Inard, l'ancien directeur qualité de l'entreprise.
Le patron réintroduisait volontairement des carcasses qui avaient été souillées dans la chaîne de production, y compris à destination du haché, qui était destiné aux grandes marques de la restauration. La direction obligeait donc mes assistantes à falsifier les documents comptables pour faire disparaître que les animaux avaient été repérés, souillés sur la chaîne d'abattage. Ils faisaient des photocopies, utilisaient du blanco, et donc il y avait une double comptabilité et traçabilité qui était faite systématiquement. Toute la chaîne de traçabilité était faussée dans les enregistrements informatiques.
Ah oui, une double comptabilité des ordinateurs trafiqués, selon les dires de ce témoin. Et que répond l'entreprise ?
Elle réfute ces accusations par la voix de son avocat. Une enquête judiciaire est en cours.
Bon, alors nous verrons bien ce que dira finalement l'enquête judiciaire. En tout cas, il y a un autre cas où là, il y a eu une condamnation.
Ah oui, c'est un exemple de fraude à grande échelle sur les contrôles à la salmonelle. Et ça s'est passé chez le numéro 1 du port en France, la Coperle, basée en Bretagne. En 2015, elle a été condamnée à plus de 3 millions d'euros pour avoir écoulé plus de 2000 tonnes de viande contaminée.
Mais elle consistait en quoi précisément cette fraude ?
Alors en fait, l'entreprise falsifiait ses propres contrôles à la salmonelle, comme l'explique le journaliste du Télégramme, Gwenda Lamery, qui a, avec un confrère, révélé cette affaire.
Concrètement, la Coperle faisait des autocontrôles sur sa viande. Donc ce sont des gens salariés de la Coperle qui effectuaient les contrôles sur la viande et qui testaient cette viande à la salmonelle. Ils notaient leurs résultats à la fois de manière informatique et de manière manuscrite sur des cahiers qui ont été saisis par la justice, et il s'est avéré que les résultats n'étaient pas concordants. Il y avait des résultats positifs sur les cahiers et des résultats négatifs sur les ordinateurs des salariés.
Oui, donc une fraude à l'autocontrôle. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment une entreprise peut se contrôler elle-même.
Alors ça, c'est la réglementation européenne qui l'a mis en place. Depuis 2005, les industriels et les producteurs sont responsables de la qualité de leurs produits et ils doivent effectuer eux-mêmes les contrôles nécessaires. Les services de l'État, eux, ne sont là que pour vérifier que les industriels ont bien fait leur travail, sauf que l'État n'a pas tout à fait les moyens de tout vérifier. Et pour cet ancien des services vétérinaires, Didier Herbert, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Tout ça, c'est le principe qui sont défendus par l'Europe, c'est-à-dire l'industriel est responsable, l'industriel est le mieux qualifié pour connaître ses produits. Sauf que il y a une chose qu'on a oubliée, c'est les enjeux financiers qui sont énormes. Sinon, il n'y aurait pas eu toutes les crises sanitaires. La crise qui s'est passée chez Lactalis, c'est la faillite de l'autocontrôle. C'est exactement ça. On a laissé les industriels s'autocontrôler, et ça a donné des salmonelles dans la poudre de lait.
On a laissé les industriels s'autocontrôler. Et cette question, Laetitia, elle est au cœur de l'affaire Lactalis qu'on évoquait en début d'émission.
Oui, et c'est notamment pour ça qu'une commission d'enquête parlementaire a été mise en place par l'Assemblée nationale. Et de son côté, le Sénat vient de rendre public 17 propositions. Parmi elles, le renforcement des contrôles de l'État, ce qui suppose des moyens supplémentaires. Juste pour vous faire une idée, le ministère de l'Agriculture n'a que 500 inspecteurs pour contrôler 400 000 établissements, qu'il s'agisse d'usines, de commerces ou de restaurants.
Merci Laetitia Chérel pour cette enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans un instant, vous allez découvrir les secrets des filières du trafic de drogue. I'm just a poor boy. Heaven's Only Wishful, le groove mélancolique d'un jeune Canadien, chanteur, musicien et producteur très prometteur, Mormor.
Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Alexandre Kaufmann. Vous venez de publier aux éditions Goutte d'Or un livre intitulé « Surdose », une immersion pendant un an au sein d'une unité très particulière de la Brigade des Stupéfiants, cette unité baptisée « Surdose » est chargée d'enquêter sur les morts par overdose ou les intoxications mortelles à Paris. Alors ils sont 7 dans cette unité, 5 hommes et 2 femmes. Et ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est toutes ces nouvelles drogues qui font partie finalement du quotidien de ces policiers spécialisés.
Oui, alors ils traitent vraiment de très nombreuses nouvelles drogues, puisqu'il y a à peu près une nouvelle drogue par semaine qui arrive en France. Donc moi, à travers cette immersion, j'ai découvert des drogues que je connaissais pas du tout, à commencer par les catinones de synthèse.
Qu'est-ce que c'est ça?
Alors ça, c'est une substance synthétisée à partir d'un petit arbuste d'Abyssinie qui s'appelle le cat, et qui est surtout utilisé dans certains milieux gays, et qui a une vertu aphrodisiaque.
Et donc c'est pas seulement la cocaïne et le cannabis?
Ah non, il y a aujourd'hui une multitude de drogues de synthèse. Et d'ailleurs, c'est même assez dangereux, puisque finalement, il y a aussi des overdoses par confusion. C'est-à-dire, on pense qu'une poudre blanche, ça va être de la cocaïne. Voilà, une jeune fille en prend. Ah ben non, en fait, c'était pas de la cocaïne. C'était par exemple du N-Baum, une substance proche du LSD très puissante. Et donc, les doses sont pas du tout les mêmes. Et du coup, on peut y rester de cette manière-là.
Et alors, à travers votre immersion au sein de cette unité surdose, on voit que le visage des consommateurs de drogue est très divers, finalement.
Oui, alors l'image de l'héroïnomane retrouvé mort entre deux poubelles ou dans les vapeurs chimiques d'une sanisette, ça s'est totalement révolu. Aujourd'hui, ça touche toutes les classes d'âge, tous les milieux. Pour vous donner des exemples, moi, les victimes que j'ai pu rencontrer, c'était par exemple un consultant en informatique, un dentiste, une étudiante en histoire de l'art, alors des journalistes, plusieurs d'ailleurs. Voilà, donc ça touche tout le monde.
Avec une catégorie bien particulière, ceux qui n'ont aucune expérience de la drogue.
Ouais, il est arrivé que par exemple, un étudiant en école de commerce fête la réussite de son examen, il prend pour la première fois de la cocaïne, ses copains lui en donnent, hop, il prend de la cocaïne, il fait la fête, il dort pas, et au petit matin, son cœur lâche. On apprend à ses parents que leur fils est mort, et eux, ils disent « mais non, mais mon fils ne touchait absolument pas à cette substance », ce qui était vrai 2 jours plus tôt.
Et alors, on comprend également comment cette unité de policiers travaille, en utilisant notamment la téléphonie mobile, hein. Ça c'est très important.
Oui, alors ça a révolutionné le cours des procédures, c'est apparu vraiment au début des années 2000, et finalement c'est un peu le talon d'Achille des trafiquants, c'est-à-dire que pour la seule unité que j'ai suivie, avant il y avait à peu près 20% des affaires élucidées, aujourd'hui c'est plus de 80% grâce justement à la téléphonie, et donc qui va structurer le visage des enquêtes au départ. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur une scène d'overdose, le téléphone intéresse presque plus les enquêteurs que le cadavre. Et tout de suite, ils vont prendre une puce, regarder s'il y a des puces merguez, ce qu'on appelle
oui,
des puces merguez.
Ça
alors une puce merguez, c'est un téléphone prépayé, avec une carte SIM prépayée. Et évidemment, c'est utilisé par les dealers parce que ça laisse pas de nom. Il faut les remonter, les géolocaliser, et puis il y a toute une démarche. Mais en tout cas, au début, ce sont devenus des enquêtes de téléphonie.
Oui, il y a tout un vocabulaire spécifique. Là, vous parlez des puces merguez. Les jeunes trafiquants, ils sont surnommés les crapauds par les enquêteurs ouais. d'unité surdose.
Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils se font arrêter, ils disent quoi. Donc, ils se sont fait appeler les crapauds.
Et alors, ce qu'on découvre également, c'est que parfois, ça semble étonnant, certains dealers continuent de gérer leur trafic depuis leur prison.
Oui, donc il y avait le cas d'un type qui continue à gérer sa petite plateforme de drogue à l'intérieur de sa cellule avec un téléphone portable. J'ai aussi pu rencontrer un dealer de cocaïne qui lui se baladait avec un bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il rentrait tous les soirs à Fresnes, mais la journée, il faisait la tournée des popotes pour livrer sa cocaïne.
Et alors, finalement,
le trafic de drogue, il s'est ubérisé d'une certaine manière.
Alors c'est vrai, ce qui est très très étonnant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à Paris, vous avez une multitude de numéros que vous pouvez contacter et qui viendront vous livrer en une demi-heure chez vous par un simple SMS et quelqu'un de très poli va débarquer chez vous pour vous livrer.
C'est ça, vous parlez de cocaïne call center, c'est-à-dire de véritables centres d'appels téléphoniques avec des livreurs. Sauf que là, au lieu de livrer des pizzas, on livre de la drogue.
Voilà, c'est exactement ça. Et alors, c'est assez intéressant parce que souvent, ça présente un curieux mélange d'amateurisme et de savoir-faire. Alors, savoir-faire, parce qu'ils peuvent très bien écouler 2 kilos de cocaïne par mois à Paris, ce qui est quand même beaucoup. Ils peuvent, par exemple, se revendre les puces avec tous les numéros des clients qu'ils appellent entre eux les bolos. Et c'est à peu près 100 euros le client. Donc, ici, ils se refilent des listes d'à peu près 200 à 300 personnes. Ça fait 20 ou 30 000 euros la puce avec tous les clients. Donc, ça, c'est vraiment le côté savoir-faire. Et puis, des fois, ça coexiste avec un côté complètement amateur, où les livreurs vont aller se déplacer avec la Twingo de maman, aller finir une partie de jeu vidéo au lieu d'aller livrer leurs clients. Donc on a vraiment ce côté assez étonnant, très structuré et en même temps très enfantin des fois. Ils rivalisent d'innovation marketing, c'est-à-dire qu'on peut très bien recevoir des messages, un gramme acheté, un gramme offert, ponctualité au rendez-vous, tout ça, ça rentre en compte.
Vous-même, vous vous retrouvez au cœur de l'enquête hein, finalement et parfois même dans des situations un peu délicates.
Hein. Bah, en fait, la confiance des enquêteurs est assez dure à gagner, je dirais, au début. Mais alors une fois qu'on l'a, j'étais vraiment étonné par la marge de manœuvre qu'ils m'ont laissé, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé sur des dispositifs de surveillance auprès de très gros trafiquants.
Vous vous retrouvez dans un bar
auprès de trafiquants dont la famille avait tiré sur la police. Donc en fait, c'était vraiment des voyous charpentés. Et moi, j'aurais pu tout faire capoter puisque je suis pas du tout formé à ça.
Mais c'est les policiers qui vous disent d'y aller.
C'est les policiers qui me disaient, il n'y a pas de place dans les voitures. Tiens, bah, va avec les enquêteurs dans le bar surveiller les trafiquants.
Et il y a même une fois un trafiquant de drogue qui vous propose de jouer à un jeu de société autour d'une table.
Je me retrouve dans un bar à chicha, donc à surveiller un trafiquant, justement un livreur de un jeune livreur de cocaïne. Eux, ils faisaient un jeu de rôle à côté, et puis le jeu des loups-garous. Mmh. Et puis il manquait de personnes pour jouer, donc ils se sont tournés vers moi pour me proposer de jouer avec eux.
Et c'est pas un peu décourageant pour les enquêteurs de ne pas remonter jusqu'au bout de la filière, d'aller derrière le petit trafiquant?
Bah alors il y a des priorités à dégager. Eux, leur rôle, c'est vraiment d'essayer de trouver qui a remis la drogue à la personne qui est décédée. Après, ils peuvent pas toujours remonter. Alors des fois, ça peut être ce qu'ils appellent un tocard, c'est-à-dire un petit trafiquant, un franc-tireur qui deal pour lui-même. Alors là, c'est assez facile parce que du coup, il l'intercepte directement. Alors quand c'est beaucoup plus structuré, ça prend énormément de temps. C'est très chronophage de remonter une filière. Ça demande plein de surveillance, des écoutes téléphoniques. Et cette unité, elle doit aussi dégager des priorités. Et donc des fois, elle doit s'arrêter à un certain niveau, quitte à donner le relais à d'autres groupes de la brigade des stupes.
Merci Alexandre Kaufmann. Je rappelle le titre de votre enquête, très bien écrite, Surdose aux éditions Goutte d'Or. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur, et à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouvez Brigitte Passion. Regardez voir. Excellent dimanche à tous.